contre.
Hello, hello, bienvenue dans Step Back, le podcast basket de la rédaction de L'Équipe. Aujourd'hui, on va parler des super teams, ces équipes qui rassemblent plusieurs superstars et forment sur le papier des armadas promises au titre. Les Celtics champions en 2008 avaient lancé ou relancé la mode, imité par le Heat un peu plus tard avec deux titres à la clé. Mais ces dernières saisons, les réunions de All-Stars sont surtout synonymes d'échecs retentissants. Dernier exemple en date, les Phoenix Suns de Durant, Booker et Bill, balayés par Minnesota au premier tour des playoffs. Alors, l'ère des super teams serait-elle révolue? On en débat tout de suite avec Amaury Perdriau. Salut Amo.
Bonjour à toutes et à tous.
Et Samy Sadik. Salut Samy.
Salut Gaëtan, bonjour à tous.
Allez, tout le monde est prêt, début du game. Samy, Amaury, en début de saison, on a tous participé ici à un guide de la saison NBA. Et dans ce guide, nous avons mis les Phoenix Suns, nous les avons annoncés, finalistes NBA. Qu'est-ce qui s'est passé entre la parution de ce guide en octobre et là, début mai, on les a vus trop beaux, ces Suns. Qu'est-ce qui n'a pas marché, Amaury?
Un peu de tout, déjà leur saison, en fait, au global. On n'a jamais senti... Cette équipe montée en puissance, se trouver, c'est tout le débat là des super teams, mais moi je pense que la problématique c'est d'avoir voulu aligner trois superstars, on va dire, avec des rôles, des postes, des façons de jouer un peu similaires. Quand on comparera avec le Miami Heat, par exemple, de James Wade Bosch, on se rend bien compte que dans les trois, il y a un intérieur, notamment. Là, on est sur trois extérieurs, shooters, créateurs, donc qui ont donc besoin du ballon.
Qui aiment beaucoup tirer à mi-distance.
Voilà, qui n'ont pas su partager. On a aussi eu une saison avec beaucoup de blessures, notamment pour Bradley Beal. Tout ça fait qu'ils ont perdu énormément de temps. Et quand on perd autant de temps et qu'on se présente en play-off avec autant de doutes, face à une équipe qu'on pourrait d'ailleurs aussi qualifier de super team en pleine émergence, de Minnesota qui, elle, s'est complètement trouvée cette saison, la différence est flagrante et le coup de balai est plutôt logique.
Ouais, on n'a jamais construit sur des bases solides à Phoenix cette année. Amaury parlait des absences de Bill, tout autour, tous les joueurs de rôle ont bougé, il y a eu des trades incessants en février. Voilà, Frank Vogel a jamais travaillé avec une même rotation et lui aussi est un petit peu coupable. Ça sortait un peu dans un article de The Athletic qu'il n'avait pas le respect de ses joueurs, il a pas réussi à convaincre ses joueurs. Il sortait d'une expérience ratée notamment qui s'était mal finie à Los Angeles où il est viré en 2022 après le titre de 2020. C'était un pari de le prendre. Ça n'a pas vraiment marché. C'était un gros travail d'essayer de faire cohabiter ces trois joueurs qui ont besoin de la balle. Même si les trois ont des qualités au shoot, c'est compliqué d'imaginer Durant, Booker, Bill. C'était compliqué d'imaginer ça peut-être fonctionner de manière optimale. On était peut-être plus omnubilé par l'idée que voilà, il y avait un talent offensif fou, mais lui n'a pas réussi à le faire fonctionner ça, n'a pas trouvé les joueurs autour pour mettre en valeur les trois. Et finalement, on a surestimé, je pense, Bradley Beal, qui est celui des trois qui, pour moi, rate vraiment complètement sa fin de saison. Il est fantomatique dans le match 4, qui est perdu et qui précipite l'élimination des Suns. Il manque 30 matchs et on se rend compte que, en fait, son déclin a peut-être déjà commencé par rapport aux joueurs qu'espérait Phoenix.
Mais pourquoi en début de saison, quand on voit l'alignement de ces trois noms, Bill, Booker, Durant, on se dit, on les imagine, nous ici, mais d'autres finalistes, on se dit, mais il y a assez de talent, peu importe l'alchimie presque, il y a assez de talent pour aller loin.
Je pense qu'on est aveuglé à la fois, notamment par les statistiques et les productions de ces joueurs-là. On imagine, quand on prend trois joueurs comme ça, empilés, les 30 points de Durant, les 30 points de Booker et les 30 points de Brill, ça fait 90.
Et en fait, ça marche pas comme ça.
En fait, le basket, c'est pas mathématique. On se retrouve avec un Bradley Beal qui arrive de Washington, il n'a qu'un besoin, c'est de prouver, mais prouver sans le ballon. Après, c'est Durant et Booker qui ont le même fond de jeu, même si c'est évidemment différent, différentes tailles, une efficacité différente. Mais cette équipe, en tout cas, a manqué de création et de création pour ces joueurs-là. Pourquoi pas pour détourner l'attention et ensuite les remettre au centre du jeu dans des séquences qui, un peu plus collectives. Et là clairement, c'est la déchéance totale du système.
On n'a pas bien rectifié aussi l'effectif. Il y avait ce débat en début de saison de est-ce que Booker peut-il jouer meneur? Est-ce qu'il peut être... On faisait le pari de ne pas avoir de vrai meneur par rapport à l'époque où c'était Chris Paul justement qui avait été important dans ce parcours de Phoenix jusqu'en finale NBA. Là, on a confié la main à Booker. Ça aurait pu être un des sujets, comment rééquilibrer ça à la mi-saison. Et au lieu de ça, on a changé quasiment tout le banc. On a essayé de faire venir des joueurs comme Royce O'Neal, Eric Gordon. Pour moi, on n'a pas forcément bien... redresser la barre en milieu de saison. C'était déjà les premiers mois ont montré que ça allait pas être ce qu'on imaginait, que Bill était blessé, qu'il y avait beaucoup de retard, et en milieu de saison on n'a pas fait les bons trades pour aider cette équipe.
Est-ce que ces Suns, à l'image des Brooklyn Nets de 2021, où il y avait à nouveau Kevin Durant, Kyrie Irving, James Harden, à l'image des Clippers là qui sont en mauvaise posture contre Dallas, est-ce qu'on n'a pas aussi une profusion de leaders, d'ego qui n'arrivent pas à s'imbriquer les uns les autres, à trouver de hiérarchie, à trouver une place par rapport aux autres? On a tendance à dire, mais ils sont talentueux, ils vont s'adapter, mais on a l'impression que c'est plus compliqué que ça.
Ouais, clairement, on l'avait déjà vu, comme tu dis, à Brooklyn, finalement. On se dit que ces trois joueurs offensifs, Harden, Irving, Durant, vont trouver des solutions, et au final, tous vont finir par demander leur trade assez vite, et l'expérience est avortée. Là, il n'y a pas encore de demande de trade, ou il n'y a pas encore de vrais échos comme quoi ça se passe très mal entre Booker, Durant et Bill, mais on a l'impression que Bill est pas forcément vraiment imbriqué au noyau Durant-Booker, qui avait déjà quelques automatismes communs. Donc, d'un point de vue cohabitation, ouais, ça c'est pas optimal ce qu'on a vu cette année. Il y a aussi pour moi, le vrai problème, c'est qu'on amène trois grosses stars comme ça. Quel est le pouvoir du coach, entre guillemets, qu'on installe à côté? C'est dur derrière pour Frank Vogel d'établir une hiérarchie où c'est lui le patron, lui qui donne les consignes quand il arrive après Booker, après Durant, et on lui impose un trade Bill qu'il a peut-être pas choisi, donc il doit construire son équipe en fonction de ça. Et avec trois joueurs qui ont les clés de la franchise, à qui on a dit, c'est vous qui avez les clés pour nous faire gagner un titre. Donc, il y a ce côté cohabitation et ce côté aussi, qu'est-ce qui se passe pour le coach?
Le coach avait été aussi un problème. On en revient à Kevin Durant à Brooklyn, où ils avaient eu...
la tête de Steve Nash.
De Steve Nash, avant Kenny Atkinson aussi. Enfin, ça, c'est compliqué quand on assemble d'aussi grosses superstars. Ça fait, c'est compliqué de les coacher.
Bah, je pense...
C'est le problème des super teams.
Oui, la réponse est dans la question, parce que faut s'imaginer que c'est 82 matchs à soutenir. Alors évidemment hors blessure, mais c'est 82 matchs à répartir la charge. Quand il y en a un qui est pas content et qu'on va ajuster le curseur, ça va forcément déplaire à un autre. Alors quand on parle de trois joueurs dont il faut bien se dire qu'il n'y a pas une amitié tranchante qui existe au préalable, parce que sur certaines super teams, alors ça avait été imaginé à Brooklyn, notamment avec Durant Harden, mais quelque part, il y a des super teams qui se sont assemblés par le passé. Les joueurs avaient une alchimie hors parquet pendant l'été, hein, et ils allaient faire du bateau ensemble ou je ne sais quoi, mais là, finalement, on n'a jamais su que Booker, Durant et Bill s'appréciaient au-delà du simple fait de s'associer sur un parquet. Donc, un coach qui doit gérer tous ces atermoiements-là, et qui doit gérer le reste de l'harmonie d'équipe autour, hein, parce qu'il faut imaginer qu'il y a ces trois joueurs-là, mais il y en a 12 autres derrière, auxquels il faut dire les ballons, vous oubliez. Par contre, c'est à vous d'aller faire le sale boulot qu'eux ne vont pas faire. Donc, on va dire le dénominateur commun de la plupart des coachs qu'on incrimine, entre guillemets, aujourd'hui, c'est leur manque d'expérience. Nash n'était pas un coach NBA établi. Frank Vogel, au-delà de son titre avec Los Angeles, qui est quand même un titre très particulier dans la bulle d'Orlando pendant le Covid, avait dirigé une équipe d'Orlando, d'ailleurs à l'époque du Magic, beaucoup plus jeune. Voilà, je pense que à chaque fois, si on n'a pas des entraîneurs de très grande expérience et qui savent ménager des égos, la part de risque est plus grande. Ça ne veut pas dire que ça ne réussit pas, mais la part de risque est plus grande.
On a parlé à un moment de République des joueurs qui choisissent avec qui s'associer, qui choisissent un peu le coach. C'est l'échec récent de ces super teams, c'est un peu l'échec de cette République des joueurs. Finalement, c'est peut-être pas la meilleure solution quand c'est eux qui décident avec qui jouer, comment jouer.
Oui, exactement. Tu parlais d'une équipe comme Miami. Ce qui est frappant à Miami, c'est qu'il y a un cadre. Il n'y a pas Trailer pour prendre les décisions basket, Eric Spoelstra pour déterminer comment on joue, qui joue et quel système. Si on prend Phoenix, le propriétaire arrive, vient de changer, a plein d'idées. Matisse Bia pour essayer d'amener un titre au plus vite. On vire Monty Williams, on amène Frank Vogel. Oui, la porte est grande ouverte pour que ce soit les joueurs qui fassent la loi. En plus, on a des joueurs, Kevin Durant, qui a déjà eu, comme tu dis, la peau de plusieurs coachs, qui a contribué à l'éviction de Steve Nash. Donc oui, il y a ce côté république des joueurs, et donner les clés aux joueurs, c'est très, 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 très risqué, comme on l'a vu potentiellement avec une équipe comme je pense aux Lakers de 2022, quand c'est vraiment Westbrook, Davis, James, que ça marche pas du tout.
Il y a une réunion entre LeBron James et Anthony Davis qui reçoivent Russell Westbrook. Voilà. C'est vraiment les joueurs qui ensemble décident de faire équipe.
Le coach est en fait... Il ne sert pas à grand chose, mais le coach est presque un épouvantail, quoi. Il est là pour, parce qu'il faut un coach, mais il a pas de pouvoir. Et donc il a rien pour s'opposer à ses joueurs qui, en plus, peuvent vite demander la tête parce que ça devient le fusible. Donc, c'est un peu dangereux, cette république des joueurs, quand on n'a pas des joueurs qui ont, comme disait Maury, une alchimie en dehors du terrain et un cadre.
De toute façon, les coachs, tout ce qu'on leur demande dans ces cadres-là, généralement, c'est de gérer les temps de jeu. Donc, c'est déjà pas très reluisant pour eux. Il y a un autre dénominateur commun que tu semblais mentionner, Gaëtan, c'est souvent quand une super team s'assemble, il y a cette notion du win now, c'est-à-dire la première année, ça doit déboucher sur un titre. Rappelons que l'année où LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh s'associent à Miami, première année, on se dit c'est la maxi super team, et ben ils perdent en finale contre Dallas.
Mais ils vont quand même en finale aujourd'hui.
Ils vont certes en finale,
même plus en finale.
Mais si tu veux, c'est le plus haut qu'on se soit approché d'une super team qui s'assemble et qui performe, on va dire, l'année 1. Et parce que les trois joueurs, justement, s'entendent, ont ce projet-là, et que, comme Samy l'a dit, il y a le cadre de Pat Riley, l'émergence d'Eric Spoelstra que personne ne connaît, mais qui vient d'un milieu très particulier et qui a su harmoniser tout ça. Aujourd'hui, c'est un win now, mais sans travailler déjà le reste qui doit aller avec, quoi. Et je veux dire, la plupart des joueurs mettent en avant souvent le team building, l'alchimie dans une équipe qui fait que c'est ça qui fait qu'on a eu le petit edge à la fin de la saison.
La maturation.
On n'a jamais parlé d'alchimie au sein des Suns cette saison, il me semble.
Exactement. Il y a une forme de maturation presque. Il y a Miami, effectivement, ou Boston qui sont champions très vite après leur super team, mais
à une autre époque.
À une autre époque. Et c'est pas l'exemple type. Ça prend une saison et demie pour les. On voit les champions récents. C'est pas des équipes qui ont tout changé et qui ont un changement de braquet brutal entre deux saisons. Ça a pris le temps de construire. Denver, Milwaukee, même à l'époque, même Golden State pré Kevin Durant, enfin pré époque Kevin Durant. Il y avait déjà du temps entre ces différents joueurs pour construire de l'alchimie avec le coach aussi. Là, on a plus ce temps, effectivement, comme tu dis. C'est Phoenix, il faut gagner un titre tout de suite, parce qu'en plus, les joueurs sont quasi... Enfin, Bill et Durant sont trentenaires. Du coup, la fenêtre est pas si large que prévu.
Et ce qui est marrant, enfin, je sais pas si c'est le mot, mais bizarre, c'est que Phoenix avait fait d'abord le choix de cette construction sur le temps long et va en finale en 2021 contre les Bucks avec une équipe de joueurs draftés, Booker, Ayton, Michael Bridges, Cam Johnson. Et ils ont tout bazardé pour faire venir Kevin Durant et se mettre cette pression du gagner tout de suite.
Immense erreur stratégique, tout simplement. En fait, ils n'ont pas fait ce que Denver a osé faire et qui leur a permis d'être titré l'année dernière, tout simplement de faire grandir ses joueurs au travers de l'échec. Mais en fait, c'est terrible à dire, mais Phoenix a considéré sa finale perdue comme un échec. Alors que quand tu mentionnes les joueurs qui sont autour de Devin Booker, il y a rien d'infamant, mais bon, DeAndre Ayton, fallait continuer à le faire grandir dans la tête. Michael Bridges, ça aurait pu être un formidable numéro 2 de cette franchise-là, sans problème. Mais on s'est dit, je sais pas, j'ai pas compris cette stratégie qui considérait à dire on a échoué à gagner le titre, là, alors qu'on a une équipe jeune et intéressante, on casse tout.
Mais il y a l'opportunité d'avoir... Vous êtes GM, il y a l'opportunité d'avoir Kevin Durant, qui est peut-être l'un des meilleurs attaquants de l'histoire. Vous n'êtes pas tenté de...
Elle pouvait se prendre. Moi, c'est plus l'opportunité d'avoir Bradley Beal, que vraiment je critique, parce que tu prends un joueur qui a un contrat énorme, donc c'est pas simplement win now, c'est tu gagnes ou tu vas être dans les oubliettes pendant 3 ou 4 ans, vu la situation salariale de Bill qui est sous contrat jusqu'en 2027. T'auras pas la flexibilité. Lui, il peut refuser un transfert. C'est quasiment les seuls joueurs NBA qui a cette clause-là. Donc, Durant, tu peux prendre l'opportunité parce que tu te dis, voilà, ça coûte très cher. Tu te sépares de Michael Bridges, de Cam Johnson. Mais c'est Kevin Durant. Tu te dis, voilà, on a une deuxième star au niveau de Devin Booker qui peut être, voilà, 1 et 1 bis. Pour peut-être qui t'a manqué en finale quand face à Milwaukee. Par contre, Bill, effectivement, est-ce que là, t'aurais pas dû construire autour de ces deux stars? 3, ça faisait beaucoup, t'as affaibli énormément l'effectif autour. C'est là où est l'erreur stratégique pour moi.
Messieurs, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème dans la construction de ces équipes? C'est-à-dire, tu l'as dit, on envoie plein de joueurs ou plein de tours de draft, ou les deux, pour récupérer des superstars. Et derrière, on n'a plus grand-chose pour bâtir l'équipe, on bricole un peu. Est-ce que c'est pas ça le souci aussi des super teams aujourd'hui? C'est qu'à côté, on mise tout sur des gros stars et derrière, la construction de l'équipe, c'est plus bancal.
Alors, pour répondre à cette question, j'en réponds à une autre que tu poses pas avant.
Ah, d'accord.
C'est celle... il y a deux types de super team. Faut pas imaginer que cette super team là dont on parle, c'est le seul type de super team qui existe. Il existe celles qui réussissent aujourd'hui, Minnesota, Denver notamment.
Ah, mais pour toi, c'est des super teams?
Oui,
parce
bien
que
sûr.
Le débat,
on pourra en discuter, mais bien sûr, ce sont des super teams. Ce sont des super teams modernes, dans le sens où ce sont des joueurs qu'on a fait grandir au sein de la franchise par des tours de draft. Je pense notamment à Nikola Jokic, qu'on est l'exemple parfait, qu'on associe à Jamal Murray. Et ensuite, une fois qu'on a fait grandir des joueurs de franchise numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, on vient y ajouter des valeurs ajoutées, mais sans cet objectif de gagner tout de suite. C'est un projet qui prend 2, 3, 4 ans. Minnesota, c'est construit autour de qui ? D'Anthony Edwards et de Karl Anthony Towns, auquel on a ajouté Rudy Gobert. Mais Rudy Gobert, c'est pas Kevin Durant. On n'a pas ajouté un numéro 1 ou numéro 1 bis pour faire gagner la franchise. Et quand ils ont échoué sur l'année 1, ils n'ont pas dit on bazarde tout. Donc si tu veux, l'état d'esprit des super teams qui fonctionnent aujourd'hui, Boston peut en faire partie, c'est de prendre le temps de laisser sa chance au produit, mais plus d'une saison, et surtout, comme le disait Samy, avec la draft. Surtout avec la draft, ne pas galvauder un choix de draft, ne pas en envoyer 3 ou 4 à l'appel pour récupérer un Kevin Durant, parce que si ça ne marche pas, on est tout nu pendant 5 ans.
Exactement, parce que là, Phoenix, même les Clippers, je crois, n'ont pas vraiment de contrôle sur leur choix de premier tour jusqu'en 2030, c'est énorme. Et pour des joueurs, la plupart trentenaires, des super teams qui sont visiblement moins fortes que ces super teams modernes dont parlait Amaury, qui elles aussi, moi j'ajouterais ça, tolèrent l'échec. Aujourd'hui, il y a Denver, ça s'est cassé la figure une ou deux fois en playoff. Boston, il aurait pu avoir la tentation de trader Jalen Brown, de trader d'autres joueurs clés. On a suivi une ligne directrice. C'était pas gagner ou détruire la franchise. Et de plus en plus, moi j'ai l'impression que ça vient parfois avec un changement de propriétaire, vouloir donner tout de suite une nouvelle impulsion. C'était le cas pour les Suns. Pour les Clippers, on prend plus le temps en fait d'accepter une année d'échec. On peut pas vraiment passer d'une équipe qui joue pas les playoffs à une équipe qui gagne le titre chaque année. Il faut accepter d'avoir une année de perdre, d'avoir des défaites frustrantes.
Et pourquoi on a l'impression, alors, je reviens à ma question, même si ta réponse était très intéressante à Maury, pourquoi on a l'impression que les Suns, d'autres super teams, les Lakers de 2022, sont déséquilibrés à chaque fois? Il manque ou du shoot, ou de la défense, ou un créateur. Enfin, il y a ce manque d'équilibre qu'ont les équipes qui ont pris le temps de se construire.
En un, on met les stars, et en deux, on complète le roster un peu à côté. Phoenix, quand ils trade pour Bill, je crois qu'il y a 4 ou 5 joueurs sous contrat. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aller en chercher 10 avec très peu de moyens. Et aujourd'hui, un bon roleplayer, ça coûte cher, en fait. On ne peut pas, pour 20 millions d'euros, avoir 5 roleplayers capables de jouer en playoff. Par exemple, un joueur comme Derrick White, qui est peut-être un petit peu plus qu'un joueur de rotation, c'est 18 millions. Un Grayson Allen qui a Phoenix, c'est une quinzaine de millions par an pour le conserver. Donc, ces joueurs-là qui sont vitaux pour entourer les stars, pour faire le sale boulot, comme disait Amaury, il faut dépenser de l'argent, il faut accepter d'être très loin dans la luxury tax pour les faire venir. Et une équipe comme Phoenix, elle se construit autour de 4 gros contrats, et ensuite, on bricole pour essayer de prendre les joueurs les plus talentueux avec le plus d'expérience possible pour 1, 2, 3 millions. Et en fait, c'est trop compliqué. Les Lakers avaient fait le même coup quand ils tradent pour Westbrook. Ils repartent avec 3 ou 4 contrats garantis. Il faut faire que des paris, et la plupart des paris comme ça sont perdants.
Il y a un phénomène, en fait. C'est presque mathématique, mais plus tu vas avoir en même temps, là, on parle quoi, des Clippers, Lakers, Suns, je ne sais pas s'il y en a d'autres là immédiatement, mais tu as 3 équipes qui ont rassemblé souvent 3 très gros contrats, mais qui finalement, en concentrant tout ça ici, tu as 27 franchises à côté qui ont récupéré le fruit de leur choix. Donc, ce soit par la draft, on peut penser notamment à OKC qui aujourd'hui a fait le choix de je sais pas combien d'années de vaches maigres. Ben aujourd'hui, par la draft, ils jouent les premiers rôles. Ou finalement, parce qu'il y a des joueurs peut-être un peu intermédiaire, mais très intéressant, on peut se retrouver à récupérer des Michael Porter Jr., des
Shai Gilgeous-Alexander pour Oklahoma City, qui a tradé avec les Clippers.
Tu reprends Denver, tu récupères un Aaron Gordon. Tout le monde est surpris par ce qu'il produit aujourd'hui, mais ça reste un joueur de valeur intermédiaire plus. Et en fait, on se retrouve alors des super teams à 4 ou 5 joueurs. Là où ces équipes-là, les Clippers, Suns et Lakers, il y a un autre problème. C'est quand on n'a que 3 joueurs, les adversaires n'ont que 3 joueurs à défendre. Quand ils en ont 5, 6, 7 ou 8 à dispo et très fort, finalement, mécaniquement, dans la tactique, dans l'approche tactique, on sait qu'on a 3 joueurs à éteindre et terminer. Et c'est pas pareil. Enfin, je trouve que c'est pas la même chose.
Mais pourquoi, comment on explique que, alors que les équipes championnes ces dernières années ont justement pris le temps de se construire, on a loué ça, qu'est-ce qui fait qu'on cède encore à ces sirènes? Qu'est-ce qui fait que les GM se disent, allez, banco, je mets tout sur un trio très très cher?
Il y a peut-être eu l'exemple Kevin Durant à Golden State qui a offert une image qui n'était pas exactement réelle. Enfin, Golden State perd le titre en 2016 au match 7. Ils vont chercher Kevin Durant qui rejoint une des équipes les plus dominantes de l'histoire déjà. Et ils écrasent, entre guillemets, la NBA les 2 années suivantes. Ça a peut-être donné un miroir déformant que, ah oui, on est à une star de gagner. Et effectivement, on est en train, je pense, d'avoir ce contre-coup des 5 années suivantes où ça a beaucoup tenté, autour de Kevin Durant, à Brooklyn, à Phoenix peut-être, dans une autre équipe l'an prochain. Ça a beaucoup tenté de recréer ça en se disant on est à une grosse star d'aller chercher un titre. Là, on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Ça va très mal tourner pour les Suns, probablement avec Bradley Beal. Ça va se payer très cher en 2027, 28, 29, 30. Donc, je pense qu'on aura peut-être un retournement des équipes plus prudentes. Mais là, sur ces cinq années, je pense que voilà, c'est l'exemple du Heat qui est toujours un peu cette lumière. Trois gros stars, quatre finales de titres. Golden State qui a pris une star en plus pour aller reconquérir son titre. Ça a donné des idées. Et là, les échecs sont en train de montrer que bah oui, c'est beaucoup plus compliqué.
Il y a sûrement des considérations marketing qu'on n'imagine pas, mais quand tu récupères à Kevin Durant dans ta franchise, t'es perdu dans le fin fond de l'Arizona, t'es pas la franchise la plus connue de la planète et qui a pas la plus grosse fanbase, bah, ça te ramène de l'argent dans les boutiques et puis ça te ramène une certaine notoriété à l'extérieur. Ça, je peux l'entendre. Mais si c'est pas construit intelligemment dans le projet basket à côté, bah effectivement, ça te fait un ou deux flops, quoi.
Est-ce que quelque chose a changé aussi? Vous avez repris l'exemple du Miami, donc de James, Wade et Bosch. Qu'est-ce qui a changé dans la Ligue entre cette époque où la super team a semblé, en un été, a été très rapidement dominante, et aujourd'hui où on a beau assembler des grands joueurs, ça ne fonctionne pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en NBA qui peut aussi expliquer que ça ne fonctionne plus?
L'âge, le physique, les blessures? Regarde, tu prends l'exemple de Bill qui est bon, pas si vieux, mais lui c'est un problème physique. Tu prends les Clippers, la super team des Clippers actuellement, la plus grosse star, c'est un mot qui est fort, mais le plus gros point faible de cette équipe, c'est son meilleur joueur, c'est Kawhi Leonard, qui est pas capable d'aligner un match sur deux depuis X saisons, depuis Toronto. Juste à un moment donné, en fait, il y a un problème de vieillissement de cette ligue et de ses stars, qui en plus de ça joue de plus en plus longtemps à l'image de LeBron James. Et donc en fait, aujourd'hui, quand on récupère une star de 35 ans comme Kevin Durant, c'est pas comme Miami qui récupère LeBron James qui en a, faites-moi le calcul, allez, on va,
27, 26, 27.
C'est pas du tout la même chose. On récupère un joueur qui va ne faire que progresser encore pendant 4 ou 5 ans. Là, on récupère un joueur établi, et établi aussi dans ses mauvaises habitudes, et il faut harmoniser autour de tout ça. Je pense que c'est vraiment ça le shift. Et aujourd'hui, tu voudrais construire une super team avec un joueur jeune. Qui est-ce que tu as comme joueur aujourd'hui de 26 ans au moins dont tu dis je construis une super team avec lui, qui n'est pas déjà dans une équipe qui imagine construire avec lui, hein. Pas beaucoup.
J'ajouterais le côté aussi, l'émergence de ces joueurs intermédiaires payés 10-15 millions mais qui sont juste vitaux pour une équipe. Miami, leur role player de l'époque, c'est Shane Battier, Chris Anderson, Mike Miller. Et ben, je me dis, c'est des joueurs, quand on voit qu'un Duncan Robinson est payé 18 millions, un Mike Miller, aujourd'hui, il toucherait probablement 17-18 millions. Et ce n'était pas du tout le cas il y a 10-12 ans. Donc, on a sous-estimé le fait que l'augmentation du salary cap, elle a aussi concerné ces joueurs de rotation, ces joueurs vitaux que tu peux mettre en 5, 6e, 7e option sur ton terrain pour un titre. Ben, aujourd'hui, il faut comment dire, un peu réarranger son salary cap, le repenser différemment. Tu ne peux pas juste mettre 4 gros contrats et espérer que tes joueurs à 4-5 millions fassent le reste et défendent sur les meilleurs joueurs adverses.
C'est pour ça que c'est plus facile de construire via la draft, parce que tes jeunes qui sont très talentueux et qui arrivent à 24-25 ans, leur contrat n'est pas encore trop cher aujourd'hui, parce que le salary cap ne fait qu'augmenter. Mais ils ne sont pas chers, ils ne pèsent pas 50 millions la saison. Donc bah, au final, c'est presque, en termes de salary cap, c'est pas un joueur de super team, c'est en devenir. Et évidemment, quand il voudra son contrat, faut soit lui donner, soit bye bye. Mais si tu veux, quand tu passes par ce canal de la draft et que tu tombes sur la pépite, parce que faut un coup de chance, tu en récoltes les fruits beaucoup plus facilement.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un, je pose la question, un problème, mais le fait qu'il y a le niveau global de la NBA a augmenté et qu'on ne domine pas aussi facilement en 2024 la Ligue qu'en 2011-2012 quand on fait venir trois gros joueurs, quoi. Ça ne suffit plus aujourd'hui, il y a tellement de profondeur.
Bien sûr, oui, et puis ça va de pair aussi avec l'internationalisation de la NBA. De plus en plus, voilà, les meilleurs joueurs internationaux sont là, sont valorisés. Il y a un talent, on n'a jamais vu autant de talent offensif, par exemple, en NBA, donc c'est tout de suite une ligue qui devient ultra concurrentielle. C'est plus compliqué de dominer, tu l'as dit. Et c'est surtout difficile, ouais, de faire une équipe dont tu es sûr qu'au moins le plancher, c'est deuxième tour, finale de conférence, qui te permet de vendre un succès. Là, les Suns, tu peux pas vendre autre chose qu'une catastrophe sportive cette saison et avec gros danger pour les saisons suivantes. Il y a 10-12 ans, Miami, Amaury parlait de la première finale. Mais c'est une finale NBA quand même. Ça remet pas en cause le projet. Aujourd'hui, les Suns, premier tour, dans une NBA ultra concurrentielle avec des équipes comme Minnesota, ça remet en cause le projet pour la suite.
Est-ce que, Alors, c'est une tendance, hein. Elle est pas, enfin, elle est pas établie, à voir si vous êtes d'accord, mais la NBA, je trouve, a tendance à revenir aussi, hein, sur un jeu plus intérieur, plus de pivots dominants, des pivots capables de tourner les regards vers eux, de s'accaparer le jeu. Alors, évidemment, il n'y a pas que Jokic, hein. Embiid et les Philadelphia Sixers n'ont pas réussi, mais les Sixers, c'est pas une super team. Et avec Joel Embiid en vraie bonne santé, je pense que c'est une équipe qui a une chance de se montrer. Minnesota, c'est quand même l'exemple parfait d'une équipe qui a s'est dit, on va prendre le contre-pied du tir à trois points, on va mettre deux grands ensemble, sauf qu'aujourd'hui, les deux grands sont dominés, entre guillemets, dans la hiérarchie, par un petit. Et un petit qui shoote pas forcément tout le temps à trois points. C'est pas les artilleurs. Golden State a révolutionné le concept de super team après Miami parce qu'ils ont révolutionné le tir à trois points. Et là, quand on forme une super team, c'est pas en prenant des bouts d'ingrédients à droite à gauche, faut peut-être assembler quelque chose qui a de la gueule, qui a une identité, qui a une façon de jouer. Là où on prend les Clippers, les Lakers et même Phoenix, c'est attendu. Ce qui est proposé par ces équipes-là, c'est attendu. Et donc c'est d'autant plus ce sera attendu, plus on arrive à le défendre ou à l'anticiper, comme tu dis, dans une ligue très concurrentielle.
Vous y croyez encore au Super Team? Vous pensez que cette mode qui avait été lancée un peu dans les années 2010 va continuer ou que voilà, même les gros marchés qui ont de l'appétit, hein, pour cet assemblage, tu l'as dit, hein, à Maury, de très marketing, de faire venir des stars, ça va, on va se lasser, on va changer de façon de faire.
Je pense qu'il y aura toujours cet attrait de faire venir une star rien que pour le côté marketing. Un gros marché, par exemple, prenons les Lakers, un gros marché comme les Lakers ne peut pas végéter 5 ou 6 ans en fond de conférence Ouest. C'est pas vendeur, ça remplit pas les salles, ça vend pas de maillots. Il y a cet attrait et il y a aussi le fait que les gros marchés bénéficient de cette lumière qui attire les stars. New York, les Lakers, c'est des équipes qui réussissent à attirer ces grands joueurs. On parle d'équipes comme Denver, Minnesota. C'est dur qu'on ait Denver ou Minnesota d'attirer l'agent libre que tout le monde veut, même si on peut lui offrir autant d'argent que les autres. Donc je pense que ça va continuer, mais je pense que ça va se faire de manière plus intelligente. Là, l'échec des Suns, l'échec peut-être des Clippers, je pense qu'on verra quand même moins de trades pour des All-Stars qui ont 32, 33 ans. Parce que là, on est en train de comprendre qu'avec des contrats qui sont de plus en plus chers et de plus en plus longs, un Bradley Beal, il va toucher, je crois, 57 millions en 2027. C'est énorme. On se retrouve attaché avec ces contrats comme des boulets. Et je pense que beaucoup de managers généraux vont comprendre que c'est un risque trop grand que de trader pour un All-Star de 32, 33 ans sans garantie aujourd'hui de construire un cadre autour.
Et peut-être que ça va changer ce que LeBron James a peut-être créé malgré lui, ce concept du joueur qui choisit du où il va et qui finit par mettre dans son contrat une clause où il a son mot à dire sur où on le trade, et au final du joueur qui va mettre la pression sur sa franchise au moment de la free agency, attention, moi je veux partir, moi je veux aller ceci, du joueur qui choisit la franchise où il veut aller, hein. On l'a vu de plus en plus ces dernières années. Donc finalement, si les franchises échaudées par les exemples qu'on vient de citer se disent, moi j'ai plus envie de vivre ça, j'ai plus envie d'être le couteau sous la gorge parce qu'il y a des joueurs qui veulent se rassembler chez moi et pas chez un autre parce qu'il y a la marge salariale, peut-être que dans les orientations stratégiques basket, on va retrouver des équipes construites par les gens qui pensent le basket et non pas par ceux qui le jouent.
Et puis il y a l'importance de la draft aussi. Je pense qu'on va se rendre compte de, effectivement, Denver, Minnesota, des équipes qui ont choisi des joueurs, Michael Porter Jr., Jaden McDaniels, en milieu de draft. Des choix qu'on pourrait se dire, j'ai le 16e choix de draft, j'aurai jamais un All-Star, allez, je le bazarde, c'est pas si grave. Non, au contraire, là, on voit que des équipes réussissent à trouver des contributeurs, des options numéro 3 ou 4 dans des équipes qui jouent le titre en milieu de draft. Philadelphie l'a fait aussi avec Tyrese Maxey, 22e choix, je crois. Donc, je pense qu'on va arriver dans une ère où on bazardera plus son premier tour de draft. Et l'exemple, c'est que les Lakers, ils l'ont pas encore échangé cet été. Ils ont leur premier tour, ce qui est ultra rare. Et ils semblent peut-être pas disposés à l'échanger pour faire plaisir aux 39 ans de LeBron James et s'offrir une dernière chance de jouer le titre et 5 ans de purgatoire derrière.
Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver Step Back sur toutes les plateformes et sur le site l'équipe.fr. On va continuer de suivre les playoffs pour voir qui des non-super teams ou des super teams modernes, comme les appelle Amaury, ira au bout. Merci à Mathis Rouanet et Roland Richard pour la réalisation de cet épisode. À très bientôt. Ciao.